Radio Spirale. Pour souligner la parution de « Plus haut que les flammes » aux éditions du Norrois, Marie-Andrée Lamontagne s'entretenait avec Louise Dupré à la librairie Le Port de Tête le 21 février 2011.
Merci Paul et merci Eric de l'accueil chaleureux. Nous sommes ici à la librairie Le Port de Tête. Nous allons enfin donner le titre du recueil de Louise Dupré qui nous réunit ici parce que c'est la parution d'un nouveau livre. Et je ne dis pas un recueil en fait, il faudra préciser, on aura l'occasion de revenir là-dessus. À mes yeux, c'est un livre au sens fort et plein du terme. Donc, Plus haut que les flammes, ça vient tout juste de paraître aux éditions du Norrois. Un mot avant de vous présenter en bonne et due forme. Sur la formule de ce soir. Elle est éprouvée, vous la connaissez, mais il est bon de la rappeler. Donc, c'est la formule de l'entretien, mais l'entretien est conversation. Donc, là encore, au sens plein et riche du terme, et avec la part d'imprévu, d'agréable imprévu qu'il y a aussi à ce genre de rencontre. Et ça va être entrelacé d'extraits, parce que là aussi, on a une matière riche. Alors, histoire de se mettre en bouche ce dont on va parler, on va profiter de la présence de Louise donc pour l'entendre lire quelques extraits qu'elle a choisis. Et puis, ce sera à la fin suivi d'une période d'échange avec le public, puisque vous êtes là, nombreux, attentifs. Vous pourrez poursuivre, y aller de vos questions. Et puis, pour ceux qui le voudraient, on va terminer avec une séance de dédicace. Il y a un livre, il y a un auteur, il y a des lecteurs, aussi bien en profiter. Donc, Louise Dupré, il faut d'abord vous présenter, même si beaucoup de gens, vous avez des lecteurs qui vous suivent de livre en livre, je dirais que avant tout, vous êtes poète. Je crois que c'est l'étiquette, si on peut parler d'étiquette, que vous acceptez le plus vol, que vous pouvez privilégier. Donc, 9 recueils, pour la plupart au Norrois. J'en donne quelques-uns. Une écharde sous ton ongle, c'était en 2004. Il y a Tout près, ça c'était en 1998. Il y a Noir déjà, 1993 et d'autres. Vous êtes également romancière, auteur de nouvelles aussi. Vous avez pratiqué le genre de la nouvelle. Votre éditeur, alors, c'est XYZ. J'ai ici L'été funambule. Ça, c'était en 2008. C'est assez récent. Et puis, auparavant, il y a eu La Memoria, qui est un roman et non pas un recueil de nouvelles. Ça, c'était en 1996. Vous avez également écrit pour le théâtre. Rappelons votre collaboration récente avec Brigitte Engens, qui a mis en scène votre pièce, Tout comme elle. Et puis, vous êtes aussi essayiste. Vous avez théorisé notamment la notion d'écriture des femmes. Et puis aussi, vous avez réfléchi sur la littérature québécoise dans divers aspects. Et le dernier ouvrage paru chez Nota Bene, vous l'avez dirigé avec Jap Linvel et Jeannette Patterson. Le titre, Sexuation, espace, écriture, la littérature québécoise en transformation. Alors, si je donne ces titres, c'est aussi pour montrer, en fait, toute la palette de votre œuvre, parce que toutes ces pièces font partie d'une chose qu'on peut appeler une œuvre, qui est en cours d'élaboration. Et j'ajoute que jusqu'à il y a peu, vous étiez professeur titulaire à l'Université du Québec à Montréal. Vous êtes toujours, d'ailleurs, professeur. C'est un club dont on ne sort pas aussi facilement. Mais vous êtes retraité depuis peu, très jeune retraité, j'ajoute.
Bon. Mais je continue à collaborer avec mon département.
Oui, ben c'est bien ce que je disais, on n'en sort pas ce club où on est admis une fois pour toutes. Alors, Plus haut que les flammes, allons dans le vif du sujet, parce que, bien sûr, c'est un entretien-conversation, comme je l'ai dit, donc on va s'autoriser à aller dans toutes les directions, je ne sais pas, mais en tout cas dans plusieurs directions, et puis de retourner peut-être dans certains livres passés, mais tout de même en prenant appui sur cet ouvrage, pour non pas parce qu'il est le plus récent, ce serait trop facile, mais parce qu'il est, à mes yeux, un sommet dans votre œuvre, et je pèse mes mots, et pour l'instant du moins, parce que on peut faire un pari sur l'avenir en ce qui vous concerne, mais c'est un livre très achevé, épuré, qui, sous une forme poétique, opère un intense va-et-vient entre l'histoire et la sphère domestique, et cela sans aucune sensiblerie, mais dans une sorte de, je dirais, de vibration permanente et douloureuse avec le monde. Ce livre est à la poésie ce qu'est à la musique le Stabat Mater. Pour moi, c'est un Stabat Mater. C'est bouleversant comme un Stabat Mater. Et puis, c'est douloureux aussi. La narratrice de la suite de 4 longs poèmes, parce qu'il est formé de 4 longs poèmes, qui sont autant de parties dans le livre. On reviendra d'ailleurs plus tard sur la forme. Se tient, on peut dire qu'elle se tient en quelque sorte au chevet du monde, quand il s'est perdu, et à un moment précis, c'est-à-dire quand il s'est perdu de vue. Dans le gouffre d'Auschwitz, et donc toute l'espérance du monde enfuie, envolée dans la fumée des camps, et pourtant à ses côtés il y a la lumière d'un enfant très jeune, intact, et qui dit que le monde, cet enfant dit que le monde n'a pas complètement sombré à Auschwitz, où ont péri, on le sait, tant d'enfants. Est-ce que c'est là une façon pas trop réductrice d'introduire votre livre?
Je trouve que c'est très juste de voir les deux côtés de ce livre-là, les deux côtés qui m'ont tenue constamment pendant l'écriture, c'est-à-dire l'intime, la relation avec un enfant qui veut vivre, et l'horreur du monde telle qu'on peut la voir à Auschwitz ou Birkenau ou dans n'importe quel camp, mais et on en arrive à voir le monde comme une contradiction. Alors je vais peut-être partir d'un point de vue plus personnel, c'est-à-dire que après avoir visité, je mets le mot visité entre guillemets, Auschwitz et Birkenau, j'ai été incapable d'écrire quoi que ce soit à peu près pendant un an.
Et ça se passait quand?
Il y a 3 ans à peu près, et je me suis dit que je n'écrirais peut-être plus jamais.
Et selon la formule bien,
oui,
bien connue,
exactement.
Comment écrire après Auschwitz.
Comment écrire après Auschwitz.
Oui.
Je n'écrirais plus jamais si je n'écrivais pas à propos d'Auschwitz et de Birkenau.
Donc tellement... le sujet n'était pas interdit en soi, c'est qu'il était tout simplement monstrueux, en fait.
C'est-à-dire que à Auschwitz, pour moi, la question qui s'est posée, c'est la question de l'être humain. Qu'est-ce qu'un être humain? Et comment peut-on parler de l'humanité, entre guillemets, qu'on a en soi, désormais? Et quand il y a un enfant dans notre vie, quand on est près d'enfant, la question devient incroyablement douloureuse, parce qu'on est dans un monde où il y a de l'horreur, de l'insupportable, de l'indicible, et on se dit, ben, quand même, la vie continue, on est là, on a à accompagner un enfant, on a à accompagner d'autres êtres humains, mais le monde est absurde. Il y a là une absurdité, parce qu'on est devant une usine de la destruction et de la mort. Et en ce sens-là, ce recueil-là m'a posé constamment la question du dire et du ne pas dire. Qu'est-ce qu'on peut dire après ça? Pas sur d'un point de vue d'un point de vue moral ou d'un point de vue amoral, mais simplement, est-ce qu'on peut encore parler de beauté? Est-ce qu'on peut parler de poésie? Et même, est-ce qu'on peut vivre? Mais la question qui se posait aussi, c'est, est-ce qu'on peut vivre, mais on doit vivre puisqu'on est au monde? Alors, Le recueil s'est articulé constamment dans cette contradiction.
Et dans cette tension.
Et dans cette tension-là. Ouais.
Mais alors, Louise Dupré, vous connaissez l'histoire, vous êtes intéressée à l'histoire, mm-hmm. vous n'ignoriez certainement pas l'existence de la Shoah et d'Auschwitz-Birkenau dans toute son horreur. De toute façon, il y a eu témoignages, textes. Qu'est-ce qui s'est passé au cours de cette visite, au-delà, je dirais, de la matérialité des objets qui sont très présents d'ailleurs dans les poèmes, hein, des détails, des chaussures, enfin c'est poignant d'ailleurs. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé pour qu'à ce point, ou alors qu'est-ce qui ne s'est pas passé auparavant qui fait en sorte qu'on oublie volontiers ou que ce serait la vie qui reprendrait le dessus dans tout ce qu'elle a avec sa part d'oubli, sa part de. Et là, qu'est-ce qui rendait l'oubli impossible?
C'est-à-dire que le fait de voir le lieu, de voir les objets, de voir les vêtements d'enfants, les biberons cassés, de voir à Birkenau l'endroit où les Juifs arrivaient par train, on a de multiples photos de cette scène-là, ça devient insupportable. On le sait, on l'a vu. Mais ce que je me dis, c'est que jusque-là, je m'étais contenue.
Donc, on ne l'a pas vu tant qu'on ne l'a pas vraiment vu.
En tout cas, pour moi, ça a été comme ça. Ouais. Peut-être pas comme pour tout le monde, mais je pense que je m'étais contenue jusque-là. Et à ce moment-là, j'ai été incapable de me contenir. Face à l'horreur, on se contient. On est des personnes adultes, civilisées, on se contrôle. Mais là, quelque chose a échappé à mon contrôle et on est dans un état d'anéantissement, anéantissement psychique, je dirais. C'est-à-dire que quelque chose, on ne peut plus se raisonner. Alors, que jusque-là, oui, évidemment, on connaît la Shoah, on sait ce qui est arrivé, mais on essaie de dire, oui, ça a eu lieu, mais la vie continue, il y a de la beauté, il y a de l'humanité, il y a de la bonté. Mais là, c'est comme si j'avais été incapable de me dire devant les faits.
Oui. Mais sans mésestimer l'importance du commentaire sur Shoah et du devoir de mémoire qui nous incombe à tous, juifs ou non juifs, iriez-vous jusqu'à dire que la construction, mais dans le bon sens du terme, là, c'est-à-dire tout le commentaire autour de la Shoah empêche d'une certaine façon la réalité de la Shoah d'opérer chez les individus que nous sommes et qu'il faut cette plongée très concrète, très, très charnelle dans l'abîme pour en prendre toute la mesure.
Sans doute, vous le dites très bien, il y a sûrement de ça, que le discours sur la Shoah nous encadre et là, quand on est au-delà du discours, il y a quelque chose dans l'individu qui sombre, qui est près de la folie, où on est face à quelque chose, c'est quelque chose d'innommable qui nous rentre dedans, comme si on était traversé et incapable de se protéger. Mais il y a aussi sûrement dans le fait de voir aussi ces lieux-là, il y a, je dirais, un fait qui nous atteint particulièrement parce qu'on ne voit rien. Paradoxalement aussi, il n'y a rien. Il y a tout, mais il n'y a rien.
Ce qui est plus terrible.
C'est ça. Sinon, des restes. Et Auschwitz a l'air d'un petit village fait avec des mini-briques. Alors, des petits villages qu'on a connus quand on était enfant. Un décor de banlieue, propre, joli, propre.
Alors, presque anodin.
Anodin. Ouais. Il ne s'est rien passé. Et tout s'est passé, là. Alors, il y a quelque chose encore là de la tension qui devient vraiment insupportable. on peut être face à des faits incroyables, mais comme si il ne s'était jamais rien passé. Et on se rend compte que la mémoire, c'est ça aussi. C'est l'incapacité de mettre des images et des mots. C'est le fait de les recréer pour soi et le fait de voir que tout s'efface dans le fond et qu'il faut reconstruire tout ça constamment si on veut garder mémoire.
On viendra dans un instant à la réponse possible de la poésie à cet état que vous décrivez, mais auparavant j'aurais une autre question, elle aussi d'ordre un peu sociologique. Vous avez souligné à juste titre la dimension profondément humaine de la Shoah et de l'expérience terrible d'Auschwitz. Dans quel état d'esprit donc humaine, mais au-delà de, par exemple, des distinctions nord-américaines, européennes, etc. Mais dans quel état d'esprit, pourtant, une non-européenne comme vous, et une non-juive surtout, visite-t-elle, vous avez utilisé des guillemets, on va les maintenir, visite-t-elle Auschwitz-Birkenau?
Dans un état d'éloignement, parce que, évidemment, c'est géographiquement éloigné, je ne suis pas juive, mais n'empêche, sont allés dans les camps, évidemment, surtout les Juifs, mais aussi des communistes, des homosexuels,
des Romanichel.
Donc, c'est toute personne qui est différente et ça interroge notre propre différence comme artiste et comme écrivain, nécessairement.
Oui. Alors, réponse, quelle peut être la réponse de la poésie par rapport à cette expérience au-delà de l'humanité, en fait? Vous y répondez par ce recueil. Donc, oui. Vous y répondez par des mots, mais surtout, vous y répondez par la présence d'un enfant qui va incarner ces mots-là.
Oui. Je dirais que je ne pense pas qu'il y ait une réponse de la poésie. La poésie a été ma réponse, mais ne constitue pas une réponse
en soi.
Je pense qu'il n'y a pas de réponse à Auschwitz. Il n'y a pas de réponse à l'horreur. Il n'y a qu'à l'accueillir et il n'y a qu'à essayer de l'intégrer en soi et de se poser la question, qu'est-ce que je peux faire, moi? Pas contre le malheur, contre l'horreur, qu'est-ce que je peux faire avec l'horreur? Moi, j'ai fait ce livre-là, d'autres ont d'autres réponses, Adorno avait sa propre vision, pour certains, ça va être le travail humanitaire, chacun a sa réponse. Mais la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que en fait, la question qu'il faudrait se poser, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour l'être humain? Et qu'est-ce qu'on peut faire pour soi? Parce que la question que pose Auschwitz aussi, et moi je me la suis posée, et c'est une question terrible, c'est qu'est-ce que j'aurais fait si j'avais été là? Si j'avais vécu à ce moment-là, est-ce que j'aurais été mieux que ces gens-là? Qui voyaient la fumée des camps et qui ne réagissaient pas.
Rien. Là, vous parlez des paysans qui vivaient autour,
tout près, ou des gens qui demeuraient près de Buchenwald, de Dachau, qui voyaient ce qui se passait, qui savaient ce qui se passait. Ça nous pose toutes ces questions-là et on ne peut pas regarder un phénomène comme celui-là de l'extérieur. Uniquement, ça nous repose la question de qui on est et comment on réagirait dans une situation comme ça. Et je crois qu'on ne le sait pas.
Oui. Se poser ces questions est surtout très inconfortable parce qu'on ne peut pas on ne peut surtout pas se retrancher dans la position commode qui consisterait à dire, ben d'abord je n'étais pas là, c'était en 39, en 40, ça se passait très loin. Évidemment, tout peut arriver encore, hélas.
Encore.
Oui. Alors allons du côté sur le versant lumineux. Vous avez parlé de tension dans ce recueil. Le versant lumineux du recueil, c'est cet enfant. Les poèmes du livre rassemblent toutes les figures de l'enfant, l'enfant promesse, l'enfant martyr, ceux d'Auschwitz, l'enfant enfui en soi, ou toujours présent en soi, c'est selon. Cette convergence s'est-elle imposée d'emblée ou peu à peu en écrivant les poèmes? Qu'il réunirait tous les enfants, pourrait-on dire, ces poèmes?
Cette convergence-là s'est imposée peu à peu, d'une page à l'autre, parce que le recueil s'est tissé, je dirais, tout doucement, et il s'est déployé en spirale, et petit à petit, l'enfant a fait surgir d'autres enfants, d'autres figures d'enfants qui venaient soit contredire la première, soit l'illuminer, soit l'assombrir, soit faire voir tout ce qu'on pouvait remarquer chez un enfant ou ce que l'enfance pouvait nous apporter. Mais les images qui m'ont le plus frappée et qui continuent de me frapper quand je pense à Auschwitz, ce sont des images d'enfance et de vêtements d'enfants et de non pas que je crois que l'enfance constitue une innocence là comme on voit souvent une pureté parce qu'il y a une sorte de sauvagerie de l'enfance, je crois, et de la cruauté de l'enfance. Mais je crois que pour moi Auschwitz a fait surgir cette image d'enfant là, l'enfant qui est dans le recueil ou dans le livre, comme vous dites, mais l'enfant que j'ai été aussi. Et l'enfant qui n'est plus, qui a dû vieillir, laisser ses idéaux, et qui se retrouve une femme de l'âge que je suis actuellement et qui doit nécessairement se reposer. Autrement, la question du monde et de l'être humain.
Oui. Louise Dupré, les poèmes du livre sont hantés par la peinture de Francis Bacon. Les Apocalypses de Francis Bacon, page 32, Dans le regard crucifié de Francis Bacon, page 68, Déformé comme un personnage de Francis Bacon, page 45, là je vous cite, je cite des vers, 9 occurrents, j'ai compté, nommément, sans compter, bien sûr, le substrat, qui viennent ponctuer la douleur et l'angoisse de la narratrice. S'agit-il d'un jeu d'écho, de miroir, d'interrogation, d'un frère d'armes dans lequel vous vous seriez reconnu en Francis Bacon? Quel est votre rapport à ce peintre ou à cette peinture?
C'est un peintre que j'aime beaucoup et je trouve qu'il incarne à merveille l'esprit d'après-guerre, un esprit désillusionné qui se pose toutes ces questions-là autrement parce que c'est par le biais de la peinture. Mais on trouve chez lui énormément de douleur face au monde et de la colère aussi. De la colère, une colère sans cynisme, mais où il attaque justement les bien-pensants. On a ces images de papes qui sont confortablement assis dans les tableaux. On se rend compte que l'être humain est un être qui est monstrueux, avec cette énorme bouche-là qui hurle. Alors, je trouve que la peinture de Francis Bacon est une peinture qui rend magnifiquement compte de l'esprit d'après-guerre et des grandes questions de la douleur que les individus peuvent ressentir ou ont pu ressentir après, justement, les horreurs de la Deuxième Guerre mondiale.
Oui. Vous avez parlé de la colère de cette peinture, la colère chez Francis Bacon. Est-ce que vous iriez jusqu'à dire que, en fait, il formule, il met en scène la colère qui vous anime devant cette horreur-là que l'on vient d'évoquer et qui, d'ailleurs, est nommément dans les poèmes apparaît. La narratrice est en colère aussi.
Oui.
Mais c'est une colère, bridée, alors que la colère de de Francis Bacon a l'air plus violente, justement plus sauvage. Est-ce que vous iriez jusqu'à en faire l'interprète de votre colère, au fond?
Oui, mais ce que je retiens chez Francis Bacon, surtout, c'est la douleur. Mm. Pour moi, ce qu'il y a de débridé chez Francis Bacon, c'est cette douleur-là, dans ses tableaux rouges, ses crucifixions. Mm. Et là, si le livre est, je trouvais très beau que vous disiez que c'est un Stabat Mater, là, on a le Fils crucifié chez Francis Bacon. Mm. Et effectivement, la colère, je trouve que chez lui, elle passe obliquement. Elle passe obliquement par le regard qu'il a sur des gens qui sont des gens, bon, soit des grands de ce monde, ou des papes et tout ça, qu'il nous donne à voir en disant « regardez-les ». Ils ont l'air innocents. D'ailleurs, il y a une toile du pape innocent. Ils ont l'air innocents. Mais justement, dans leur innocence, il y a quelque chose de monstrueux. Et peut-être de plus monstrueux que dans ces formes-là d'êtres humains qui ne sont plus des êtres humains pour moi.
Oui. On va parler de la forme, parce que c'est très important pour un écrivain. Là. Vous avez choisi une forme très précise, donc c'est une suite de strophes de deux ou trois vers, tous brefs. Si on compare avec les carrés de prose rythmés de tout près, on voit que c'est des formes brefs. Ce n'est pas la première fois que vous utilisez les formes brèves, mais avec autant de constance à l'intérieur d'un même livre, comme on tient la note, on pourrait dire. Oui. Là, il me semble que c'est la première fois. Est-ce que c'est le cas?
J'avais commencé à explorer cette forme-là dans Une écharde sous ton nom, mais c'était quand même des poèmes séparés, des suites poétiques, mais où il y avait des arrêts, alors que là, c'est quatre mouvements. Oui. Comme en musique, et les quatre mouvements, je les ai pensés à la façon d'une spirale. Et j'ai fait ce recueil-là comme un roman, de sorte que je n'ai pas été sûre qu'il fonctionnait avant d'avoir mis le point final. Je me disais, peut-être que tout va s'écrouler, et si ça s'écroule, tout ça va dans la poubelle de mon ordinateur. Il n'y a rien à récupérer parce que c'est vraiment lié, c'est un tout. Oui. C'était vraiment comme un tout.
Expliquez-moi ce que ça veut dire, écrire un livre de poèmes comme un roman, ou juste?
C'est-à-dire que je le voyais comme...
C'est une architecture?
Oui, c'est une architecture, c'est un tout. C'est un tout où chaque fragment... entre dans le fragment suivant, dans le fragment suivant, dans le fragment suivant, et c'est inséparable. On ne peut pas prendre, j'ai eu beaucoup de mal à choisir des extraits parce que je me dis, où est-ce que je commence puis où est-ce que je termine? Mm. Alors, et dans un roman, quand on fait des lectures d'un roman, on se rend compte à quel point c'est difficile.
Tout se tient.
Parce qu'on ne sait pas où commencer et où terminer. Tout se tient. On ne peut pas isoler une partie.
Oui.
Alors, c'est exactement ça dans ce livre-là.
Ah oui.
Je ne peux rien isoler.
En tout cas, vous allez voir que vous pouvez isoler quelque chose. Vous l'avez fait, là. On va entendre dans un instant. Mais en tout cas, il en résulte cette forme brève, cette succession de strophes, de vers, de deux ou trois. Il en résulte une ligne claire, vraiment le poème qui dévide, on pourrait dire, le fil de l'émotion, des émotions où se mêle tout ce qu'on a dit, colère, douleur, souffrance, inquiétude aussi. Écoutez, lisez-nous donc un extrait que vous avez découpé,
que j'ai découpé
aussi cruellement.
Arbitrairement. Alors peut-être le début de la deuxième partie. Et tu recommences ton poème avec la même main, le même monde. La même merde étalée sur la page. Gauche, la main, quand elle brasse des matières qui ne la regardent pas, sauf en diagonale, sous l'angle de la honte, comme si c'était la main d'un soldat qui avait suivi les ordres, lèvres cousues, insigne cousu à la place du cœur. Mais tu es là, posé tranquillement dans ta main gauche, avec l'enfant et le compte du petit garçon sauvé des eaux. Car le matin est parfois cette bonté des livres où les princesses ouvrent les yeux devant les berceaux dérivant sur les fleuves. Le matin est cette folie de raconter les femmes qui ont enfanté en un seul clignement des paupières. Simplement raconter, dans ta langue maternelle, un élan, soudain une âme, un amour qu'on devine aussitôt la main éblouie, tendue vers les langes et les pleurs souillés. Il y a des matins pour l'amour, et tu veux les raconter à l'enfant près de toi, comme ces anciens troubadours marchant de village en village, avec un peu de décence à jeter sur les guerres. Tu veux appartenir à une lignée de rêveurs en éveil qui ont de tout temps propagé la consolation pour la suite du monde. Et le matin, tu t'évertues à réanimer les saints livres pour l'enfant près de toi, même si tu ne reconnais plus ton monde, ni sa course essoufflée, ni sa cacophonie en couleurs sur les écrans géants accrochés au building qui dorment autour du carré du temps. Tandis que des hommes et des femmes comme toi se mirent en silence dans le regard crucifié de Francis Bacon.
Ce qu'on reconnaît dans des signes de reconnaissance par rapport au poème que vous avez pu publier antérieurement, c'est l'usage de la deuxième personne du singulier. Comme si la narratrice se prenait à témoin ou s'admonestait. D'ailleurs, dès les premiers vers du livre, ton poème a surgi de l'enfer. C'est l'attaque, c'est l'ouverture. Et là, on a vu l'usage de la deuxième personne du singulier. Le poème est-il chez vous aussi et surtout un dialogue avec soi?
Dialogue avec soi toujours. Tentative de dialogue avec l'autre aussi. L'autre à l'extérieur de soi. Je crois que tout écrivain cherche à entrer en dialogue avec l'autre. Sinon, on laisse les écrits dans le tiroir et on ne les publie pas. Tentative de dialogue, sûrement. 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 Et dans ce cas-là, effectivement, le tu... essaie de mettre du jeu entre soi et l'autre à l'intérieur de soi. Essaie d'opérer une sorte de distanciation. Mais je n'ai pas réfléchi au pronom quand j'écrivais. Le « tu » s'est imposé de lui-même. Je n'ai pas décidé d'écrire à la deuxième personne.
C'est la voix que vous entendez.
C'est la voix que j'entendais. Oui.
Parce qu'on pourrait aussi voir dans ce « tu » une façon de prendre à partie le réel et le monde, aussi, bon, dialogue avec soi, mais façon de saisir à bras-le-corps le monde et surtout quand le monde se perd de vue.
Sûrement.
Dans l'horreur.
Sûrement. Mais en parlant avec vous, c'est peut-être aussi le « tu » est commode parce que... Le tu permet, dans cette distance-là, peut-être d'aller plus loin que le je. Le je qui n'est pas nécessairement autobiographique.
Non, bien sûr.
Mais qui est plus intime. Oui. Ce tu-là permet justement plus de colère, oui. Plus de débordement, oui. Plus d'amour. Plus de douleur.
Oui.
Ça permet des états oui.
Le jeu, extrêmes. Le jeu, au fond, il est toujours un peu soupçonné de lyrisme. Hein? On pourrait dire ça. Alors que le tu, en effet, le tu est plus vindicatif.
Oui.
Et dans tu, ben, il y a tué aussi, non?
Oui,
c'est coupant déjà. Oui. Ça prend un parti. Oui. D'ailleurs, comment, vous l'avez dit d'emblée, comment toute la question de ce livre, c'était comment créer, comment écrire, mais moi j'ajoute comment créer de la beauté, parce qu'incontestablement, il y a aussi de la beauté à partir de cette matière terrible. Comment créer de la beauté sans trahir l'être humain? Vous y parvenez avec une très grande délicatesse dans la brutalité des faits, sans gommer la brutalité des faits. J'ai parlé de va-et-vient entre l'histoire et la sphère domestique. Bien, par exemple, il y a le four allumé pour préparer le lait chaud de l'enfant, et quand on le voit mis en scène, on ne peut pas ne pas se rappeler les fours d'Auschwitz, évidemment. Et de même, le sang sur les murs comme un mémorial, des éclaboussures de sang, et les crayons de couleur rouge tendus à l'enfant. Donc il y a cette oscillation permanente, ces télescopages réussis. C'était tout de même s'avancer sur le fil du rasoir, vous en étiez consciente?
Ça a été un recueil qui s'est écrit sur le fil du rasoir, constamment. Et je dirais qu'effectivement, l'écriture permet de maintenir cette position funambule, sans chuter d'un côté ou de l'autre. Le danger, c'est de chuter dans une sorte d'horreur complaisante ou dans les bons sentiments.
Oui, bien sûr.
Et j'ai toujours essayé de rester à la limite des deux, sans tomber. Maintenant, mais aussi avec la conviction que la beauté naît nécessairement de cette tension-là. Parce que on ne peut pas penser dans un monde comme le nôtre que la beauté est une donnée pure. On ne peut plus penser comme ça.
Bon, c'est pas une catégorie en majuscule.
Non, on ne peut plus penser la beauté. Et même, il y a une beauté qui surgit de la laideur.
Oui, bien sûr, bon, on le sait depuis Baudelaire, au moins.
Effectivement, ouais. Et si on voit l'art moderne, ouais. on le voit aussi. Et en ce sens-là, c'est le travail, je pense, de tout artiste actuellement d'essayer de faire de la beauté avec la laideur moderne du monde, mais pas de façon ostentatoire. Ce serait la beauté en minuscule. C'est un monde minuscule, donc c'est une beauté minuscule. C'est une bonté minuscule qu'on cherche, même si l'horreur est majuscule.
Parce que le monde est minuscule? Le monde s'écrit en minuscule pour vous?
Oui. Nécessairement. Le monde s'écrit en minuscules.
Et... parce qu'il est petit, parce qu'il n'est pas à la hauteur de vos espérances, parce que... Il pourrait mériter quelques majuscules, ce monde. Il y a deux ou trois choses de bien, là, dans le monde, tout de même.
Je trouve qu'il s'écrit de moins en moins en majuscules. Et on pourrait revenir à la question politique qu'on n'abordera pas cet après-midi. Mais... actuellement, on est devant un monde de plus en plus petit dans tous les sens du mot petit. Et l'artiste rêve grand, rêve beau, mais effectivement, comment rêver cette grandeur-là, cette beauté-là dans un monde si petit, tout en étant lucide? Alors, l'écriture nous amène à la lucidité constante et au devoir d'agir, mais d'agir en se disant qu'on ne peut pas changer le monde.
Vous avez dit, ce livre s'est écrit sur le fil du rasoir tout au long. Qu'est-ce qui vous guidait, en fait, quel mécanisme critique aviez-vous en place? Parce que vous êtes aussi, vous réfléchissez, vous êtes une essayiste, peut-être que c'est dans un deuxième mouvement que la critique se mettait en place, mais en tout cas, faites-nous entrer un peu dans votre atelier, là. Quel mécanisme critique mettiez-vous en place pour justement vous éviter de trébucher sur l'un ou l'autre écueil qui vous guettait de tous côtés?
Ben justement, je pense que la poésie permet d'éviter soit de s'expliquer longuement ou soit de raconter longuement.
Mais on peut se tromper en poésie aussi, on peut rater des choses en poésie.
Bien sûr, mais l'économie du langage fait, en tout cas pour moi, que c'est plus, disons, je dirais pas facile, mais que le langage, avec ses trous, avec les figures, avec ce les blancs, les trous, et effectivement, vous parliez de la forme même du recueil, qui est plein de trous et de blancs, permet le silence. Et je crois que, face à un sujet comme ça, il faut garder le silence le plus possible, en épurant le langage pour qu'il n'en reste que qu'une colonne vertébrale, si on veut, sans que ce soit nécessairement un langage abstrait, un langage qui soit désincarné. Et je ne me serais pas risquée à faire un roman ou un essai peut-être dans un deuxième temps. Mais je vous dirais que quand j'écris de la fiction, j'essaie de ne pas trop réfléchir de façon... à ma pratique. Parce qu'effectivement, on risque de perdre le corps à corps au langage qui, pour moi, est extrêmement précieux. Il faut qu'il y ait une part de non-savoir ou de savoir intuitif, même si c'est une expression qui n'est pas très moderne, de savoir intuitif qui nous guide et qu'on n'ait pas trop mis en place un système, que le système se mette en place de lui-même, très doucement. Parce que si le système est éprouvé, il risque justement d'étouffer ce qu'on écrit.
Oui, de toute façon, le retour critique vient bien assez tôt.
Oui, alors, exactement.
Aussi bien avoir déjà une glaise à pétrir et pas trop censurer au départ. Page 43, vous évoquez le poète en araignée du soir. On connaît la comptine, hein? Araignée du matin, chagrin. Araignée du soir, espoir. Sur le plan poétique, laquelle araignée a la meilleure part? Car on sait que le chagrin dévolu à l'araignée du matin peut aussi être fécond. Il n'y a qu'à lire la phrase de Cormac McCarthy que vous citez en exergue, page 59. « Toutes les choses de grâce et de beauté qui sont chères à notre cœur ont une origine commune dans la douleur, prennent naissance dans le chagrin et les cendres. » Alors, laquelle araignée a la meilleure part?
Dans la création elle-même, pour moi, c'est l'araignée du matin.
Chagrin, donc.
Le chagrin. Le chagrin, la douleur, c'est ce qui motive ma pratique, c'est ce qui me porte à écrire. Sauf que j'essaie quand même de faire venir l'araignée du soir le plus souvent possible. En tout cas, j'essaie de me poser la question de ce que peut être une araignée du soir actuellement. Et dans mon écriture, je crois que j'ai une écriture assez noire, mais je n'ai pas une écriture désespérée. En tout cas, je ne veux pas que le noir ou la douleur soit là comme comme complaisance. J'essaie constamment de sortir de la douleur ou de l'analyser à la lumière de l'espoir. Et la figure de l'enfant, en ce sens-là, m'aidait beaucoup parce que on ne peut pas apprendre la douleur à un enfant. Il faut quand même lui présenter un monde qui est acceptable au point de départ. Sinon, c'est un non-sens total. De sorte que ça nous fait revisiter notre propre monde et sans présenter un monde de lumière, il faut lui apprendre à travailler avec sa propre douleur, à accueillir sa douleur, mais montrer qu'il y a des choses intéressantes, il y a un avenir, comme je dis, un avenir à la dure fiction de durée. Sinon, je veux dire, on arrête d'écrire, on arrête de vivre, Et puis, on est là, tout le monde, donc ça veut dire qu'on croit en quelque chose. Ouais,
donc, il y a peut-être plus d'araignées du soir qu'on le pense.
Ben, il faut
tapis dans les encoignures là, des maisons en train de tisser. Leur, oui. Vous écrivez, puis après, je vais vous demander de lire le deuxième extrait que vous avez découpé. Vous écrivez, et je vous cite, « Alors que tu revis ta propre enfance avec ces espèces non menacées et l'école, la maison et l'église plantées aux trois angles d'une pureté. » Donc, nulle nostalgie dans cette évocation de l'enfance de la narratrice, mais plutôt une espèce de miroir tendu à la réalité présente et le chemin de soi à soi qu'oblige à parcourir la maternité qui se prolonge évidemment dans les petits-enfants, en l'occurrence. Donc, vous avez dit tout à l'heure, je ne crois pas que les enfants d'aujourd'hui, que les enfants sont purs, mais est-ce que les enfants d'aujourd'hui peuvent connaître peuvent se souvenir de leur enfance comme d'un espace pur dans ce monde avec plein de minuscules comme vous le décrivez là. Est-ce qu'il y a encore place pour que les enfants d'aujourd'hui qui seront des adultes dans 20 ans se souviennent de leur enfance comme étant un espace préservé ou est-ce que tout est à peu près gâché ou saccagé?
C'est-à-dire que dans ma génération il n'y avait pas la télévision. Alors ça, c'est une immense différence avec les enfants qui vivent aujourd'hui. Alors, quand on a la télévision, on ne peut plus être préservé. Il n'y avait pas de garderie, on commençait à aller à l'école, on apprenait des contes, on était abreuvé aux histoires de la religion. Et donc, il y avait un monde qui était beaucoup plus clos. Et évidemment, le monde Auschwitz-Birkenau, on ignorait ça totalement, mais on en parlait peu. J'ai passé mon enfance dans les années 50, alors c'était un moment où le monde était clos sur lui-même, ou bien j'ai totalement oublié, mon milieu en tout cas.
Oui, mais on pourrait vous dire que de toute façon, et ça c'est, je me fais l'écho de bien des témoignages de rescapés, c'est que les gens ne voulaient pas entendre. D'abord, les rescapés eux-mêmes ne pouvaient pas parler, ne pouvaient pas formuler. Élie Wiesel, c'est en 1958, la nuit. Alors, et puis, les gens ne voulaient pas entendre, alors que votre enfance ait été préservée de toute cette fureur, ce n'est pas étonnant. Non. Mais au-delà d'Auschwitz et des camps, est-ce que l'enfance des enfants d'aujourd'hui peut être préservée avec...
Non, je ne crois plus.
Donc, ils n'auront pas d'enfance, ils ne pourront jamais se souvenir de leur enfance. Vous n'êtes pas très loin du désespoir là, quand vous dites ça.
C'est différent. Tout leur vient parce que le journal télévisé, la télévision leur apprend ce qui se passe constamment. Ils vivent dans un monde où le beau, le laid, le bon, la bonté, le mal et tout sont constamment en lutte et en lutte, je dis pas nécessairement constamment, mais se superpose par couche. Et je crois que c'est beaucoup plus difficile actuellement de se préserver, et même pour nous, de se préserver un espace à soi, à moins de s'en aller à la campagne très loin, de dire je n'apporte pas de radio, ni de télévision, ni quoi que ce soit.
Mais il n'y a qu'à venir en librairie.
On est traversé par ce qui se passe. Constamment. On ouvre son ordinateur, on va sur Google, on voit les nouvelles les plus récentes. Le monde est là, avec nous, et on le vit, et beaucoup plus qu'il y a même 10 ou 20 ans, ou bien je ne me souviens plus, mais il me semble qu'on est de plus en plus porté par le flot du monde, et de moins en moins capable de se protéger. Mais bon, on verra. Ce serait intéressant de vous entendre aussi là-dessus.
Alors, pour le moment, lisez-nous un extrait, un deuxième extrait, si vous voulez bien, puisque nous sommes dans un espace protégé qui s'appelle cette librairie. Non, mais je le dis sans rire. C'est vrai qu'on peut s'abstraire de la niaiserie, finalement, moyennant un petit effort qui consiste à éteindre la télé et puis à se rendre dans sa librairie préférée.
Exactement. Mais dans les librairies, il y a aussi des livres qui ne nous protègent pas toujours.
Mais il faut pas vivre dans l'inconscience. Moi, je ne veux pas vivre dans l'inconscience. D'ailleurs, vous voyez la mouse là, de Art Spiegelman, juste là, qui nous fait signe. C'est un grand livre, ça.
C'est exactement. BD. Et là, je viens de commander le journal d'Emery Kertész. Alors, voilà, donc ça ne me protégera pas beaucoup.
Non, mais il ne s'agit pas de vivre dans l'inconscience, mais peut-être d'être moins passivement bombardé de tout, en fait, de toute la niaiserie. Qui est assez...
Et c'est ce que l'écriture nous permet, de réagir, et pas seulement de réagir, mais d'agir, d'avoir l'impression qu'on est un sujet dans ce monde-là qui nous bombarde.
Tout à fait. Alors, Louise Dupré, nous vous écoutons. C'est la troisième partie?
Oui, c'est un extrait de la troisième partie. L'enfant ne connaît pas le sang du calice. L'enfant est une soif d'or qui éclabousse le paysage. Il t'entraîne. Il te force à marcher dans ses délires d'avenir et d'espace. L'enfant est plus grand que les bras des crucifixions. Et tu redeviens la fillette qui pleurait grand pour aimer grand. Toi, la maintenant petite et vieillie, au cœur courbé. Ce que tu vois reste sans appel, comme une mère déréglée. Une église aux angelots clouée par le blanc des ailes. Une cage en verre pour le lustre des papes qui ont su préparer le malheur. Ce que tu vois chaque jour déchire la peau de ton œil. Mais tu poursuis derrière l'enfant ta route immobile, en espérant toucher, dans l'innocence des herbes qu'on dit mauvaises, une seconde de sagesse, tel un puits où plonger ta douleur, jusqu'à une eau tressaillant de beauté. Et tu t'enveloppes de ce rien, semblable à une aube neigeuse, alors que tu contemples le matin engourdi de silence, cette rosée qui fait miroiter le monde dans ta main, tout à coup habile à fabriquer du jour. Tu te fais tout à coup l'artisane d'un linceul pour les âmes sous les cendres, comme si vivre devenait un ouvrage de dame et de modestie, repris à chaque intuition de la lumière. Et tu redresses les mots sous tes paupières, afin que l'enfant près de toi apprenne à gravir une à une les marches de ses rêves. Car l'enfant est à lui seul une humanité. L'enfant est un don que tu n'attendais pas.
Très beau. Que l'enfant apprenne à gravir. Donc, il y a la notion d'apprentissage qui est presque inhérente à tout rapport entre adulte et enfant. Vous écrivez, c'est-à-dire la narratrice écrit, parlant des religieuses de son enfance, ces femmes aux robes lourdes berçant un crucifié entre leurs seins. Donc, c'est une image très, très belle aussi à la fois des religieuses, mais aussi des religieuses qui sont des femmes dans leur maternité. Pourrait-on dire. En fait, c'est la figure de la Pietà, encore une fois, qui revient hanter
ce recueil-là.
Qui plonge au plus profond de votre enfance avec ces religieuses.
Nécessairement, j'appartiens à une génération qui a connu l'enseignement religieux. Même si je ne suis pas croyante, toute ma culture a été religieuse dans les 20 premières années de ma vie. Et c'est clair que pour moi, cette culture-là, je veux la faire passer dans mes livres. Elle imprègne mes livres. Elle imprègne ce livre-là, elle imprègne surtout Tout Prêt, où j'ai essayé de redonner, de vouloir écrire les effets de cette culture-là sur l'individu.
Et pourquoi voulez-vous la faire passer dans les livres? Parce que vous pourriez estimer par ailleurs qu'elle est révolue, qu'elle n'a plus sa raison d'être, en tout cas qu'elle n'est plus connectée
à la réalité.
Ou à votre oui. agnosticisme ou à votre athéisme oui. actuel.
C'est-à-dire que je pense que la religion catholique m'a fait ce que je suis avec ces images, avec une certaine vision de la culpabilité. Il faut dire que j'ai été élevée dans une ville loyaliste où...
Sherbrooke, en l'occurrence.
Sherbrooke. Qui était à l'origine protestante, et qui est devenue catholique, mais j'ai toujours eu l'impression que les catholiques avaient quelque chose de protestant. C'est-à-dire que la culpabilité était là, et même si on se confessait, la faute restait. On n'était jamais pardonné.
Face à sa conscience.
Oui. Donc, on traînait nos fautes, et il y avait une sorte de péché originel avec lequel on devait vivre. Alors, je suis vraiment imprégnée par cette atmosphère-là, que je décode peut-être mal, c'est mon interprétation, peut-être que s'il y avait un psychanalyste dans la salle, il me dirait que c'est tout autre chose, mais moi, je l'interprète de cette façon-là. Et cette culture-là m'a profondément marquée, et je me suis retrouvée très profondément dans les fous de bassin. Curieusement,
Dan
c'est
Hébert,
un roman qui m'a profondément marquée et qui continue de me marquer, même si, évidemment, il n'y a pas que la culture religieuse dans ma vie, mais si je regarde ou je reviens à mon enfance, ces religieuses-là, la vision qu'on nous donnait de la culpabilité, mais aussi de la sensualité, parce que, comme on disait tout à l'heure, il n'y avait pas la télévision et tout, et donc, la Bible, c'est un merveilleux récit, quand même, avec
et même au pluriel,
de merveilleux récit, avec ses légendes, avec sa vision, et nous avons rêvé, les enfants devant la Bible. Alors, c'est clair que la Bible a marqué mon enfance autant que les contes de Perrault ou que les contes que me racontait ma mère ou mon grand-père. Alors, je suis attachée, mais culturellement, et ça vient de très, très loin, même si dans ma famille, mon grand-père ne pratiquait pas, ma mère ne pratique pas et tout. Donc, c'est pas quelque chose qui m'a été imposé dans ma famille, mais à l'école, j'aimais la religion. Je trouvais ça intéressant, je trouvais ça beau.
Ouais, alors que la Bible vous ait formé, ça montre bien qu'au fond, vous appartenez à la civilisation occidentale, parce qu'on pourrait dire que...
Exactement.
Si on prend l'histoire de l'art, l'histoire de la musique, enfin, toutes les références, en tout cas, elles sont bibliques en grande partie. Mais pourtant, ce que vous évoquez quand vous parlez de la religion de votre enfance, ce que vous en dites, c'est pas très... Je comprends que ça vous ait marqué au sens premier du terme, impressionné, comme on impressionne en photographie, on pourrait dire. Oui. Mais ce n'est pas très, comment dire, serein, la culpabilité, enfin toutes ces choses-là, on n'a pas envie de mettre ça dans la colonne de l'actif, mais plutôt dans la colonne du passif, et pourtant vous le gardez comme, vous le recevez comme héritage. Si on pense à Michel Tremblay, par exemple, quand il évoque dans le cycle du plateau Mont-Royal, il y a quelque chose de joyeux, de festif, c'est les belles processions, c'est les fêtes, enfin, bon, etc., l'école qui se mobilise pour telle fête. Il y a aussi quelque chose, il y a surtout, enfin, il faut se garder des généralités, mais il y a quelque chose de joyeux dans la religion de Michel Tremblay, dans ses romans. Dans votre cas, la religion, elle a son poids. Vous êtes du côté de Bergman, au fond, non?
C'est-à-dire que dans ce recueil-là, oui. Mais oui. Dans Tout près, c'est plus joyeux.
Oui, c'est vrai.
C'est l'encens, c'est les fleurs, oui. Les odeurs oui. Qu'on entend, les fêtes, les habits religieux, oui, oui. La procession de la fête. Il y avait quelque chose de
toute la
de
pompe
très
catholique
joyeux.
était joyeuse.
Oui, tout oui. À fait.
On va aller vers le public dans un instant qui peut-être voudra poser des questions, réagir, mais finalement, nos propos nous y mènent. J'ai dit au tout début que ce livre était un Stabat Mater. Alors nous voilà avec une référence religieuse. Hein. On sait que c'est la douleur de la Vierge au pied de la croix et traduit en musique. Mais la narratrice, et c'est un chant très beau, hein, les Stabat Mater qui existent sur.
Oui, j'aime beaucoup les Stabat Mater.
Ils sont bouleversants. Oui. Donc, si le livre est un Stabat Mater, à mes yeux, de lectrice en soi, la narratrice, elle ne chante pas, mais danse. Oui. Elle apprend à danser, et on pourrait dire que l'enfant lui apprend à danser, au fond. C'est ça qui se met en place. Et on peut dire aussi qu'il s'agit de poèmes évoquant une résistance, celle de la narratrice à la danse. Elle se dit, je ne peux pas danser quand le monde va si mal. Et pourtant, parce qu'elle sait, elle, que le monde, puisqu'elle est adulte, elle sait que le monde peut être laid, qu'il l'est presque les trois quarts du temps, et que l'enfant ne le sait pas encore. Et c'est pour ça que lui peut danser.
Il peut danser.
Et c'est pour ça que lui peut lui montrer à danser. Donc l'apprentissage, il est dans l'autre sens aussi, là.
Oui. C'est-à-dire que, en réfléchissant a posteriori à ce recueil-là, et je crois que la narratrice veut apprendre, c'est moins lourd, le bonheur à l'enfant, et que l'enfant lui apprend le bonheur. Et toute la question que pose ce recueil-là, c'est « il y a de l'horreur, mais il y a du bonheur ». Et la responsabilité de la narratrice face à l'enfant est une responsabilité à transmettre le bonheur aussi. Et elle ne peut pas transmettre que le malheur, que le noir, que la douleur. Il faut qu'elle transmette la joie, la légèreté, la danse et tout.
Mais le peut-elle? Étant donné ce qu'elle sait du monde.
Oui. Elle fait le pari qu'elle le sait et elle se met à danser.
Et elle danse d'ailleurs, bel et bien.
Elle danse et elle se laisse emporter. Et elle veut que l'enfant soit un danseur, qu'il soit capable de valser dans l'œil du cyclone.
Oui, oui.
et je crois que c'est notre position aujourd'hui, même à nous, en tant qu'adultes, danser dans l'œil du cyclone en se disant on a une responsabilité à continuer. On a une responsabilité à la joie. C'est une drôle de formule, mais il y a une éthique de la joie. Le mot bonheur est peut-être un peu lourd, mais une éthique de la joie dans ce recueil-là, je crois. Et c'est une joie qui est parfois grimaçante, mais quand même...
Qui est réelle.
Qui est réelle.
Et qui est une impulsion.
Qui est une impulsion.
Et on peut y entendre des échos, par exemple, de Saint-Denis Garneau, bien sûr, cette éthique de la danse et de la joie. Et Saint-Denis Garneau, dont on sait qu'il a aussi écrit des poèmes très, très noirs. Et puis aussi, j'ai entendu, moi, un écho de Roland Giguère, hein, avec la main du bourreau finira toujours par pourrir. Donc, ça apparaît... qui veut faire pourrir la main du bourreau, ça c'est un de vos vers. Mmh. Alors il y a ces échos-là aussi qui, en fait, il y a une communauté de poètes qui se forment autour de l'enfant et des araignées du soir.
Et des araignées du soir.
Alors tournons-nous vers le public très attentif, de plus en plus nombreux. Je tournais le dos par là. Alors il y a un micro. Ce micro, c'est parce que, comme vous le savez, cet entretien est radiodiffusé, je dirais, sur Radio Spirale. Je ne sais pas s'il faut dire radio, s'agissant d'une radio Internet, mais en tout cas, oui, diffusée, radio diffusée. C'est Radio Spirale, c'est très bien. Donc, c'est pour ça qu'il y a des micros, pour que vos questions puissent être répercutées dans l'espace, dans le cyberspace. Alors, c'est un peu intimidant, dit comme ça, hein? Alors peut-être qu'il n'y aura pas de questions, mais si, tout de même. Alors, commentaire ou échange, parce qu'on est, ici pour échanger.
Louise, j'aimerais vous dire que je suis une des 50 femmes qui a eu la chance de lire vos poèmes dans le spectacle de Brigitte Hankins. Et je dois vous dire que si je suis ici aujourd'hui, c'est parce que j'avais votre livre depuis un certain temps et je n'avais pas eu le temps de le lire. Je l'ai lu à haute voix rapidement aujourd'hui et j'ai téléphoné à Norrois qui m'a dit qu'il faisait ça ici. Et je voulais vous dire ma première impression qui m'a vraiment beaucoup, beaucoup touchée, c'est le rythme qui fait que ça commence dans un rythme très coupé, mais qu'on enchaîne continuellement. Et en le lisant à haute voix, là, je suis pas inventive comme vous, parce que je l'ai pas lu en pensant à ce que je lisais. Je parle de vous, madame. J'ai pas beaucoup de sens critique, mais je l'ai lu comme d'un souffle. Et j'ai trouvé que ça commençait. Au début, je disais, mon Dieu, c'est découpé. Bon, il faut que j'enchaîne dans la pensée. Je l'enchaînais, je recommençais. Et j'ai tout saisi. Votre douleur au départ et au deuxième, à chaque fois que vous parliez, parce que moi je connaissais pas le peintre, je m'en excuse, et là j'ai lu ça et j'ai eu besoin de vous le dire et j'ai téléphoné chez vous, vous étiez pas là, j'ai téléphoné au Norrois, j'ai su que vous étiez ici et je viens de me nourrir de tout ce que vous venez, vous, de poser comme question et je dois vous dire qu'à la fin, je trouve que le rythme est tellement extraordinaire. Quand vous parlez de la danse, moi, j'aime danser. J'ai toujours fait de la danse en tant que comédienne. J'avais besoin de danser. Et je trouve que le rythme, à la fin, donne une espèce d'espoir, donne une espèce de vie, de vitalité extraordinaire en le lisant comme ça. Et je peux pas vous dire autre chose que ce que j'ai reçu, c'est des moments de personnes qui étaient tellement touchées par ce qu'elle a vu. Au début, ça fait mal, puis que lentement, il y a comme, à cause de l'enfant, à cause des rapports qu'on a besoin, des rapports humains qu'on a besoin de communiquer avec les gens, qu'à chaque fois, je sentais l'humain qui revenait, toujours à cause peut-être de l'enfant. Et à la fin, pour moi, c'est une forme, quand vous parlez des religieuses, ça nous marque ça, la générosité des gens. Et cette femme-là, à un certain moment, il y a une espèce de... dans le rythme de la danse et un besoin de communication et de don, d'échange que j'ai senti. Et je dois vous dire que j'ai vécu quelque chose dernièrement qui peut être intéressant, peut-être pas pour tout le monde, mais humainement, c'est que j'ai eu un téléphone des Sœurs Immaculées Conception parce que j'étais allée rencontrer une religieuse en lui disant que ma tante avait été maîtresse des novices et que moi, enfant, j'ai vécu à Pontvieux parce que papa était dentiste, mon oncle était dentiste aussi, religieux des Sœurs Immaculées Conception. Et mes les enfants, je sais pas s'il y en a qui ont connu Fernand Graton, qui était chef de l'Orchestre symphonique des jeunes à l'époque. Mes cousins sont morts, mon parrain est mort, il a ses 8 enfants orphelins. Et papa était aussi dentiste et est allé chez les religieuses pour leur dire qu'est-ce qu'on fait avec les enfants, pouvez-vous nous aider? Et j'ai 2 petites cousines qui ont vécu là durant l'été et j'ai appris que Sœur Sainte-Christine, qui était si bonne avec ses petites cousines, ben, fêtait ses 100 ans. Et je suis allée et j'ai revécu toute mon enfance. C'est ce que vous avez dit tantôt, ce dont vous avez parlé, c'est qu'on ne peut pas se détacher de ce qu'on a reçu des gens qui nous ont donné. Alors, c'est juste ça, en rapport avec ça. Les questions.
On va entendre Louise Dupré là-dessus. Réaction, Louise Dupré. Merci, madame.
Merci beaucoup, Françoise Gretton. Ce que je trouve extraordinaire quand il y a un dialogue entre des arts différents, c'est de voir comment les textes sont vus, ou vus par un artiste visuel, ou là, vous êtes comédienne. Effectivement, je travaille beaucoup le rythme, mais je n'aurais pas pu parler du rythme de ce recueil-là aussi bien que vous, parce que vous l'avez lu à haute voix et vous vous êtes imprégné du rythme. C'est votre travail, c'est votre métier, vous le faites depuis de nombreuses années. Mais effectivement, Je pense que je peux rien ajouter à ça, sinon que c'est très beau et je vous remercie de votre témoignage.
J'aurais aimé le lire plus pour vous apporter encore plus ce que j'avais ressenti. J'ai fait deux traits.
Mais il y a encore quelques mois ou quelques années devant nous pour prolonger la lecture. D'autres commentaires, questions, réactions? Monsieur?
Je voudrais savoir ce que vous ressentez à l'intérieur lorsque vous commencez à rédiger. Donc, quelle serait la prime impulsion qui vous porte à la plume et à la page? Donc, qu'est-ce qui vous a mené à accoucher un peu de ce fruit qu'est ce poème? Parce que bon, j'ai compris le parallèle avec Francis Bacon, mais j'aimerais savoir chez vous quelle était cette impulsion ou disons cette prime essence poétique.
C'est-à-dire que l'incubation s'est faite pendant un certain temps et comme je disais tout à l'heure, je n'arrivais pas à écrire. Et qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on décide de prendre un crayon et de coucher des mots sur le papier, c'est assez mystérieux. Sinon, une sorte d'impulsion qui est plus forte que notre réserve et une phrase qui vient comme ça. Et une phrase qui trouve sa forme dans un rythme. Effectivement, je travaille beaucoup à partir du rythme et ton poème a surgi de l'enfer. Alors voilà, et je sentais qu'il y avait quelque chose là qui commençait, alors que avant j'avais essayé de, je m'étais mis en bouche de nombreuses phrases, de nombreux vers qui ne fonctionnaient pas. Qu'est-ce qui fait que tout à coup on a un déclencheur? Ce n'est jamais la même chose, mais là je savais que ça tenait. Et peu à peu, il y a une sorte de fil qui s'est tissé. Et il y a aussi une expérience de l'écriture. Parce que bon, on n'apprend pas d'un recueil à l'autre, d'un livre à l'autre, d'un roman à l'autre. Sinon que on se fait peut-être un petit peu plus confiance. Et on sent peut-être davantage si ça a une chance de fonctionner ou si ça n'en a pas. C'est la seule chose que je pourrais vous dire, mais rien de sûr, rien d'assuré. Et pour un autre livre, ça sera tout à fait différent. Mais je commence toujours par une phrase qui trouve son rythme, et ensuite, je sais que le texte peut être là. Je n'ai jamais de projet plus grand.
Vous avez parlé de fonction. Qu'est-ce serait la fonction du poème à ce moment-là?
La fonction.
Donc, j'aimerais savoir au niveau de la fonction. Vous avez parlé donc de mettre en phase la poésie. Donc, vous avez couché votre poème. Et une fois, vous avez parlé donc si ça fonctionne ou pas. Et c'est ça que j'aimerais savoir.
Si donc, ça fonctionne. Oui. Ben, c'est-à-dire que on le sent. Il y a une voix qui se dégage. Il y a un souffle, si vous n'aimez pas le mot voix, il y a un souffle qui se dégage et il y a un souffle qui vient. Et exactement quand cette voix-là prend forme, on sent si c'est une voix qui va résister pendant un certain nombre de pages ou si c'est une voix qui va retomber. Je pense que c'est comme ça aussi pour un musicien. Il sent que, bon, ça tient ou ça tient pas, ou le pari, c'était de tenir cette voix-là pendant 4 mouvements. Voilà. Alors, voilà, et de ne pas me répéter, tout en me répétant, mais d'agrandir les cercles.
C'est comme une symphonie.
Je trouverais ça prétentieux de ma part mais, de dire ça, mais...
Un Stabat Mater.
Un Stabat Mater, si on veut.
Oui. Mais vous dites 4 mouvements, donc c'était entendu qu'il devait y en avoir 4.
Pas au point de départ. Ah. C'est venu petit à petit, la forme s'est trouvée peu à peu. Je savais pas au point de départ combien il y aurait de mouvements. Mais souvent dans mes textes, il y a 4... 4 parties. Je sais pas pourquoi. C'est à interroger. J'ai une petite idée, mais je vous la dirai pas.
Autre question, commentaire, réaction? Alors, de toute façon, l'échange va se poursuivre dans un cadre de 2 à 2 ou de 2 à 3. C'est la beauté de l'affaire. Je vous remercie beaucoup, Louise Dupré, de vous être prêtée à cette conversation, à ce jeu de questions et de réponses. Je rappelle que vous êtes disponible pour ceux qui le voudraient pour dédicacer leur exemplaire. C'est l'occasion. Et puis donc là, on va poursuivre l'échange entre nous autour de ce recueil, autour de la poésie, autour de du monde tel qu'il va, tel qu'il devrait aller, tel qu'il ira à partir de ce soir, puisque les araignées du soir ont gagné. Voilà.
Alors, est-ce que...
Merci. Merci donc à Paul Bélanger et à Mylène des Éditions du Norrois. Merci à la librairie Le Port de Tête, Radio Spirale bien sûr qui procède à l'enregistrement. Merci à vous Louise Dupré. Merci à vous, gens du public, lecteurs. Merci.
Alors je veux vous remercier aussi Marie-Andrée, Paul et Mylène des Éditions du Norrois, la librairie Le Port de Tête, bien sûr, et Radio Spirale, et vous tous et toutes qui avez été d'une grande générosité, d'une grande patience. Merci.